Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à un autre épisode d'Aux Premières Loges, le podcast où l'on revient sur l'actualité, en fait, les matchs des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey 2024. Et pour en parler, je suis en compagnie de Vincent Tardif. Comment ça va, mon Vince?
Ça va bien, ça va bien, Thomas Ali?
Ça va très bien, ça va très bien. Encore du beau hockey qu'on a eu droit hier soir, donc le 27 avril. Puis on va commencer ça tout de suite avec les Islanders qui ont finalement été chercher une victoire contre les Hurricanes de la Caroline. Ça a pris la première double prolongation de ces séries éliminatoires. Donc un score de 3-2, c'est juste ici, je l'ai. C'est Seth Jarvis qui ouvre la marque pour les Hurricanes, son deuxième des séries. Matt Barzal a marqué, on l'attendait lui, Barzal du côté des Islanders, a marqué son premier des séries. Ensuite, Pageau. Nelson qui a égalisé le tout. Et puis, finalement, en deuxième prolongation, c'est Barzal à nouveau. On attendait Matt Barzal du côté des Islanders offensivement. Puis, ben, il s'est démarqué là, dans ce match-là. Très bon match de sa part. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là? Les Islanders qui ont finalement réussi là, à obtenir une victoire.
C'est un peu la série que je trouve la plus endormante entre les 8 en première ronde. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu à l'image là, de cette série-là, cette rencontre-là. Quoique les Islanders sont rentrés fort, ça a pris dans le fond leur pénalité. Là. Je ne sais pas qui a eu la pénalité, mais ça a pris la pénalité pour un peu changer le vent de bord en première période. Sinon, c'était les Islanders qui étaient là pour... on sentait qu'ils faisaient face à l'élimination, donc il n'y avait pas le choix de commencer fort. Mais après ça, par exemple, là, quand ils ont commencé à prendre les devants, quand ils ont pris les devants là, avec le but de Pageau, jusqu'à temps que les Hurricanes égalisent, là, je pense, j'ai pas trouvé que c'était un match intéressant. Là. Les Hurricanes jouaient, les Islanders jouaient comme au match 2, là, jouaient pour protéger leur avance. Puis un classique match des Islanders là, qu'on était habitué les dernières années. Puis j'étais bien content de voir que Matt Barzal ça a fini par marcher parce que c'est lui le morceau important de l'attaque des Islanders. Puis s'ils veulent faire un certain miracle là, puis remporter cette série-là, il va falloir que ce soit lui, ça passe par lui. Puis j'ai trouvé aussi que, ils ont trouvé la recette. Là. Les Hurricanes n'ont pas marqué de but à 5 contre 5 dans cette rencontre-là. Donc, s'ils sont capables de continuer comme ça, là, peut-être qu'ils peuvent avoir une chance. Mais je crois pas que ça va arriver. Là, mais il faut continuer dans cette lancée-là.
Oui, tout à fait. Tu as parlé de Barzal. Tu l'as dit. Je pense qu'avec Patrick Roy aussi, il lui permet peut-être un peu plus de s'exprimer offensivement. Là. Puis c'est vraiment un des seuls éléments excitants de l'attaque des Islanders, bien honnêtement. Tu parlais de séries... qui était moins divertissante. Il y a celle-là, effectivement. Il y a aussi celle Predator Canucks là, dans l'Ouest là, qui est reposante. On pourrait dire ça ainsi. Là, ouais. 12 tirs du côté des Canucks du dernier match. Mais bon, on n'est pas là pour en parler. Mais ouais, tu l'as dit. Puis les Hurricanes, est-ce que tu trouves que c'est quand même des matchs serrés contre les Islanders? Même il y a certains matchs que les Islanders auraient pu mériter de gagner. Ils ont pris les devants 3-0 dans le match numéro 3, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que tu trouves que les Hurricanes, en fait, ne jouent pas à leur meilleur niveau? T'sais, on les voyait, plusieurs les voyaient comme étant des prétendants. Est-ce que tu penses que s'ils passent les Islanders, ils vont devoir là, augmenter leur niveau de jeu pour la suite?
Certainement, parce que on s'entend s'ils passent, ça va être les Rangers en deuxième ronde. Ce ne sont pas les choses de. C'est l'équipe qui a remporté le trophée du président, les Rangers, donc ça ne sera vraiment pas facile. Mais ce que je trouve plate, c'est que ils ont été ajoutés à date limite, ils ont ajouté des Genzel puis des Kuznetsov. Puis on a un Seth Jarvis qui a step up sa game offensivement, mais encore une fois en série, on dirait qu'ils ont de la misère à payer le step de plus puis d'avoir une grosse production offensive. Je sais que les Islanders, c'est une équipe qui est bien bâtie pour bien se défendre, mais il faut qu'ils trouvent un moyen là, de marquer plus de buts que ce qu'ils sont capables que ce qu'ils font en ce moment. Là. Je pense que c'est là le problème. Là, puis c'est ça, parce que tu es devant le filet, Fred Anderson, à part le match numéro 2, là, il joue bien, mais il va falloir que l'attaque là, élève son jeu d'un cran s'ils veulent se ramasser en finale de la Coupe cette année.
Ouais, les Hurricanes sont très bons en échec avant. Pardonnez-moi. Très bon en échec avant, très bon aussi pour se mettre devant le filet, amener des rondelles au filet, puis marquer sur des retours, des déviations. Mais je trouve qu'il manque de créativité offensive, comme tu me disais, comme une équipe comme les Oilers ou l'Avalanche ou les Rangers. On n'a pas ça côté Hurricanes. Tu parlais des Gordon Anderson, très bonne série. Puis on a vu Varlamov pour les Islanders, donc on a procédé au changement, puis ça a été payant parce que Varlamov a disputé également un bon match. Maintenant, l'autre série dans l'Est, les Panthers contre le Lightning. Le Lightning aussi qui faisait face à l'élimination, et tout comme les Islanders, ils sont sortis avec une victoire de 6-3. Stamkos, un quatrième but pour lui dans ces séries-là en avantage numérique. Et goal en désavantage numérique. Braden Point qui marque sur un wraparound, beau but de sa part. Les Panthers.
Donc,
ils ont tenté 6-3. Donc, on a finalement été capable de revenir avec un autre but de Stamkos, entre autres, de côté du Lightning. Qu'est-ce qui a été différent côté Lightning? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a finalement été capable de battre offensivement les Panthers?
Ben, je pense qu'ils ont joué avec l'énergie un peu du désespoir. Ils ne peuvent pas se permettre de se faire éliminer en 4 contre le rival de la Floride à la maison. Ce qui fait la différence, honnêtement, je pense que ce qui a fait la différence sur la première période, ils étaient partout. Là, je ne sais pas si. T'as écrit la première, là, mais il était partout en première période. C'était dans le tapis. Puis on l'a vu un peu en début de deuxième où il était beaucoup plus. Il avait moins d'énergie. Il était beaucoup un peu plus mou. Les Panthers ont repris un peu le contrôle du match. Puis eux, il fallait qu'ils rentrent fort aussi en début de deuxième. Là, mais je pense qu'il y avait de la différence chez le Lightning. C'est le début de match. Puis c'est les snipes de Steven Stamkos.
Exact. Puis point de match. Ouais, vas-y.
Tu as mentionné le but de pointe. Là. Je ne sais pas ce qu'Aaron Ekblad faisait à ce moment-là. Là. Il avait les yeux rivés sur Coach. S'il regarde un peu ce qui se passe dans le jeu, il empêche le wraparound. Mais il faut qu'il le regarde. Puis c'est important de mentionner, je trouve, aussi le retour de Mikhail Sergachev. Qui est de retour après cette
course
il n'y a pas très longtemps. Fait que c'est
gros match de savoir. Il y a une passe.
Ouais, c'est un beau jeu de celui des Eagles. Il a marqué, mais en deuxième période, là, j'ai vraiment pas aimé la deuxième période des Eagles. Il a fait plusieurs revirements dans sa zone. Qui aurait pu être coûteux, mais Vasilevski a réussi. Il a fait des gros arrêts aussi, là, si on veut parler de quelque chose qui était important là, pour le Lightning. C'est les arrêts de Vasilevski qui a fait en deuxième, là, quand justement son équipe se faisait un peu plus dominer.
Ouais, il y a le but de Ekman Larsson, je pense, qui a un peu traversé Vasilevski, mais.
Ouais. C'était je sais pas ce que Duclair aussi. Je sais pas ce que Duclair a essayé de faire là, quand les Panthers ont relancé l'attaque. Là, il a essayé de mettre de la pression sur. Je ne sais pas c'est quel joueur les Panthers. Il n'a rien fait, puis il aurait dû être là pour couper la passe dans le centre, mais je ne sais pas ce qu'il faisait, puis ça menait à ce but-là, là, mais non, c'est.
Ouais.
J'ai hâte de voir la prochaine game en Floride.
Moi aussi, voir si ça va s'arrêter là pour le Lightning, ou est-ce qu'on va avoir une série floridienne qui se prolonge un peu plus, mais c'est le fun d'avoir tes analyses défensives, toi en tant que défenseur sur Duclair, puis aussi, c'est vrai, avec Blad sur Kucherov. Tu sais, je pense qu'il y avait déjà un gars sur Kucherov, puis il n'y a personne littéralement qui est allé sur point, puis Bobrovsky s'est fait.
Ouais, mais il a battu, je me souviens pas avec qui que Ekblad joue, là, mais il l'avait battu de vitesse, puis il y avait un petit. On a vu le petit move qui fait en fait en sorte que le gardien un peu s'avance, puis sort un peu de son positionnement, qui fait en sorte qu'il n'est pas capable de se rendre. Fait que Ekblad aurait pu jouer les rôles là-dessus, mais finalement, c'est pas grave. On est content
qu'il y ait ça fait. Ouais, exact. Ça prolonge cette série-là. Puis une série qu'on pensait plus série que ça à la base. Là. Fait que, bien d'accord avec toi. Tu as parlé d'Eagle aussi. Eagle, oui, de revirement, mais quand même deux buts. Puis c'est un des gars qu'on voulait plus voir, là, côté Lightning. Parce qu'on n'a pas eu de problème avec Kucherov, Point, Stamkos. Ces gars-là ont produit. Mais des gars comme Eagle, des gars comme Nick Paul aussi qui a marqué dans ce match-là. Bon, il y a des Simmons puis d'autres gars qu'on n'a toujours pas assez vus dans cette série-là. Mais quand même, tu as. Pas les forces offensives du Lightning qui se sont illustrées. Puis c'est ça qu'on avait besoin parce que dans tous les autres matchs, Stamkos, Point, Kucherov, pas mal avaient produit. Ça manquait du soutien des autres lignes. Puis on a vu ça dans ce match-là. Est-ce que tu penses que ça se termine au prochain match? Est-ce que tu penses que la Floride, qui a quand même passé très proche de remonter dans ce match-là, est-ce que tu penses que c'est fini pour le Lightning prochain match?
Je pense pas parce que je pense que c'est un match qui peut donner de la confiance à une équipe comme le Lightning qui sait comment ça fonctionne. Je pense qu'on est capable d'aller chercher au moins une autre rencontre. Tu sais, Eagle qui a connu l'année passée une saison incroyable, une excellente saison. Fait que, ça peut-tu donner de la confiance encore là comme ça? Puis si. Fait que non, moi je pense que vraiment que. En plus avec le retour de Sergachev, ça rajoute vraiment une option importante. Je trouve vraiment quelque chose d'intéressant à leur défensive. Fait que Je pense que le Lightning va être capable de forcer un match numéro 6.
Je suis assez d'accord. Puis tu en as parlé de Sergachev. Parce que la défense du Lightning depuis le début de la série, ça faisait quand même assez malmené par les Panthers. Donc oui, bon point que ça redynamise, ça renforce cette défense-là. Ensuite, autre match qui a été bien intéressant pour peut-être d'autres raisons, là, notamment des questions de banc. Mais on va y revenir plus tard. Mais bon, Bruins Leafs, c'est les Bruins qui prennent l'avance 3-1 dans cette série-là. James Van Riemsdyk qui va marquer sur un revirement coûteux de Ryan Reeves. Ensuite, Brad Marchand en deuxième période, lui qui connaît une excellente série. Brad Marchand, je pense qu'il est deux ou troisième meilleur pointeur des séries présentement. Un but en avantage numérique, donc. David Pastrnak également qui va marquer sur un 2 contre 0, si je ne me trompe pas, avec Brad Marchand. Donc, les gros canons des Bruins qui ont été présents dans ce match-là. Mitch Marner, on a beaucoup critiqué là, dans ce match-là, mais dans la série au complet également, qui va marquer tout un but. Là, son premier des séries, vraiment un très beau but, mais c'est dans une course perdante et ça n'efface pas tout ce qu'il a fait de mal dans le match ou dans la série. Donc, ça finit 3-1 parce que les Leafs n'ont pas réussi à marquer ensuite après. Mais voilà, aussi, il faut parler là, de ce qu'on a entendu des propos de Nylander, de la dispute entre Matthews, Nylander et Marner sur le banc, ça a jasé beaucoup là, depuis hier à propos de ça. C'est quoi ta vision par rapport à tout ça?
Tu as parlé du but de Marner, je pense pas que ça efface la mauvaise rencontre qu'il a jouée. Je sais pas si tu as vu là, sur le but à Marchand, sur l'avantage numérique, là, j'ai rarement vu tu parlais de jeu défensif tantôt, mais j'ai rarement vu un aussi mauvais jeu défensif. Là, je ne sais pas si tu as vu.
J'ai vu Paul Bissonnette qui l'a.
Ouais, justement, c'est ça.
Ouais,
pendant l'intermission, quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas croire que. Comment tu peux jouer comme ça? En plus, je ne sais pas c'est qui le commentateur des Leafs. Puis Marner, il a pas une pénalité en première ou en deuxième. Il mentionne que comme hey, les Leafs perdent leur meilleur gant en piqué. Je ne peux pas croire que ton meilleur gant en piqué est prêt à mettre son bâton.
C'est ça.
À la bonne place. Là, fait que,
c'était
il a l'air désintéressé.
Ouais. Ouais. Vraiment. Puis tous les clips que Paul Bissonnet montrait dans son argumentaire, là, il a totalement raison. Là. C'est, comme tu as dit, désintéressé, nonchalant, du jeu mou. Il a de l'air de ne pas fournir les efforts. Puis en plus, tu as Matthews qui quitte en troisième. Mais qu'est-ce que tu penses là, de ça, en fait, des commentaires comme ça de la frustration sur le banc, que tu dis ça sur le banc, que tu n'attends pas que tu sois dans le vestiaire. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu t'appuies, tu te le dis sur le moment présent ou tu aimes mieux que ça se fasse dans le vestiaire, c'est porte close puis pas à la vue du public?
Non, moi, je pense que si tu es un leader, je pense qu'il faut que ça sorte. T'sais, si quelqu'un qui a besoin de se faire réveiller, il a besoin de se faire réveiller là, puis pas entre les périodes où je me souviens pas c'était à quel moment, c'était assez tard dans ma soirée, ça. Fait que je me souviens pas c'était à quel moment que... Il s'est fait donner de la marde, là, mais...
Deuxième période, je pense.
Deuxième période, c'est ça. Il ne faut pas que tu attendes en troisième. Tu as besoin de shaker un peu. Quand tu sais que si tu perds là, tu retournes à Boston, puis c'est 3-1. Fait que tu as une chance. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu donnes un effort de plus. Mais c'est sûr que c'est différent de chaque personne. Il y a des gens que ça va marcher, des gens que ça ne marchera pas. Là. Mais moi, je pense que si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire là. Puis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec les caméras là, aussi? Ils vont être là, puis c'est des choses à faire. Puis tu as parlé là, de Ryan Reeves au début, là, lui, il devrait plus jouer. Là, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait encore. Si tu veux gagner, avec le retour de Nylander, je sais pas c'est qui a écopé, là, mais c'est Noah Gregor, je pense, qui a écopé
hier. Possible, je me rappelle pas.
Me semble que c'est ce que j'ai entendu. Mais ça devrait pas être lui qui écope un gars comme Ryan Reeves. Là, il essaie une passe dans le centre sur le but de Van Rensburg. Il essaie une passe dans le centre. Tu sais que c'est un vétéran excellent. Tu peux pas essayer un truc comme ça. Là,
puis il y avait, c'est pas comme s'il y avait un gars qui se préparait pour la sortie de zone. Là. Il y avait personne dans le centre.
Non,
même
non,
si
ça
passe
le filet. T'as chip sa bande. Puis tu veux que ça sorte. Pas de passe dans le centre. Mais non. Là. Puis c'était une belle passe aussi de Zaka. Là, sur le but de Pastrnak. C'était assez créatif. Là.
Sur le but de Pastrnak, c'est pas Marchand qui était avec.
Mais avant, là, pour donner là, okay, pour le 2 contre 1, la passe dans le centre qui a été. Je sais pas c'est qui le défenseur, je pense que c'est Lindholm qui a fait une passe dans le centre. Zaka l'a comme fait dévier à Marchand qui a passé Brody.
Ouais, tout à fait. Oui, puis mais pour revenir là, sur ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. Les caméras, c'est faut que tu les oublies, mais c'est sûr que ça va faire beaucoup jaser les médias.
Ouais,
c'est du bijou pour les médias pour ça, puis c'est les Leafs en plus. Puis aussi, j'en ai parlé au début de la série, mais les Leafs sont 0-2 là, à la maison, puis ont vraiment pas, c'est vraiment pas une forteresse. Là. Ils ont une meilleure fiche à l'étranger qu'à la maison aujourd'hui, puis ça paraît en série. C'est assez triste que un des plus gros marchés de hockey dans la Ligue, en fait, le deuxième en compétition avec Montréal, j'ai l'impression, là, c'est les deux qui se rivalisent, soit aussi terne comme ambiance, aussi pas l'impression que tu entres dans une forteresse, en fait. C'est assez triste là, quand on parle de Toronto pour ça. Puis sinon, si on peut revenir sur Brad Marchand, qui vraiment, il faut lui accorder, connaît des séries extraordinaires. Je pense qu'il est deuxième meilleur pointeur derrière McDavid ou peut-être troisième. Là. Mais c'est incroyable ce qu'il fait. Il a 3 buts, 5 passes, si je ne me trompe pas. Des gros buts en plus. Ouais, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance?
Il est dans la tête des Leafs avec son attitude. Puis il produit en plus. Tu ne peux pas avoir mieux, je pense, de ton capitaine en série.
Ouais.
Même s'il a fait un mise en échec douteuse, là, je peux pas m'empêcher de penser que c'est le MVP des Bruins en série. On se demandait un peu, là, justement, quand on a fait le preview, ça allait être qui allait se lever un peu avec l'apport offensif, parce qu'on s'entendait qu'il y avait 60 points de différence là, entre... c'est 60 points? C'est peut-être un peu trop ce que je dis là, mais il y avait un bon gap de points entre... Je pense que 60 points, c'est Stamkos et Kucherov, là, mais il y avait un bon gap de points entre Pasternak et le deuxième des Leafs. On se demandait qui allait se lever, puis c'est le capitaine qui l'a fait. C'est ça que tu as besoin si tu veux remporter une série, là, surtout contre les Leafs qui ont une machine offensive.
C'est sûr que quand tu regardes le bâton entre les jambes de Bertuzzi, je pense que c'était dans le match numéro 2 ou 3, bref, puis qu'il n'a pas été pénalisé, t'es comme il est chanceux, c'est bon aussi, Marchand. Mais tu l'as dit, il rentre dans le temps des Leafs, l'attitude, il est gossant pour l'adversaire. Il s'en va même féliciter les Leafs, leur dire que c'est un défi, puis qu'ils ont ajouté du physique et tout. Puis là, il réplique avec une performance de, je pense, c'était 2 ou 3 points le lendemain. C'est incroyable ce qu'il fait, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, Marchand, faut admettre là, qu'il connaît vraiment des grosses séries. Puis tout à fait, là, c'est de loin le MVP des Bruins jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on va voir, est-ce que ça va se finir directement comme ça pour les Leafs en 5 en première ronde encore contre les Bruins? Ça va être à suivre. Maintenant, la dernière confrontation qui nous manquait dans les matchs d'hier, c'est Stars, Golden Knights, oui, voilà.
Yes.
Victoire en prolongation des Stars, une première victoire des Stars dans cette série-là, après 2 gros matchs des Golden Knights puis des performances un peu décevantes côté des Stars. C'est Wyatt Johnston qui va marquer en prolongation tout un but là, quand même, puis il a marqué plus tôt dans le match également à Johnston, donc enfin son réveil de ce côté-là. Les Golden Knights, tout de même, qui sont revenus à 2-2, avec un autre but de Jack Eichel, qui lui aussi là, était un autre prétendant pour le MVP des séries. On est très, très, très trop, ceci dit, là, mais Eichel connaît de très bonnes séries pour le moment. Mais ouais, qu'est-ce que tu penses de cette performance des Stars qui vont enfin acheter une victoire?
Ben, il fallait, dans le fond, le réveil offensif des jeunes. Donc, ouais. Wyatt s'est levé, puis il a réussi, parce qu'on a parlé de à quel point cette équipe-là était profonde avec 3 lignes sur l'arrière de marquer, puis c'était pas le cas depuis le début de la saison. Là. Depuis le début des séries, fait qu'il en arrachait un peu. Fait que j'étais content. Puis ils sont sortis fort un peu comme le Lightning en première période. La différence, c'est que Logan Thompson, il a vraiment goalé un match incroyable. Là. Je me souviens pas c'est quoi les tirs après une, là, mais
ouais.
C'était assez. C'était d'un côté, là, je l'ai trouvé. C'était 18-7 en première période.
C'était 11-2, quelque chose comme.
Ouais, c'était 11-2 je pense que. C'était 11-2 quand Wyatt a marqué. Là, fait qu'ils sont sortis fort et ils étaient prêts à gagner.
OK, c'est ça.
Puis, en deuxième période, sur le but des Scannen, c'est le troisième trio des Stars qui a contribué. Fait qu'ils vont avoir besoin de ça là, s'ils veulent gagner contre les Golden Knights qui sont aussi profonds qu'eux. Donc, c'est ça.
Oui, ben, tout à fait là. Tu as parlé de l'apport des jeunes des Stars, tu sais, Johnston. Il y a Stankoven, je pense pas qu'il y a de but encore dans cette série-là, mais il joue pas du mauvais hockey. Il y a l'apport des vieux là aussi, là, offensivement. Là, tu sais, Jamie Benn, je le vois pas jouer. Seguin a eu quelques moments. Pavelski, c'est triste à dire parce qu'il était vraiment très clutch en série dans les dernières années. Je l'ai pas vu de la série non plus, ben. Fait que,
mais tu vois, côté des Stars, Le jeu de Jamie Benn, je le déteste pas. Tu sais, Jamie Benn, son jeu, je le déteste pas. Il est pas prêt. Il est peut-être pas là sur la feuille de pointage, mais parce que à date, ils ont souvent joué en même temps que les Oilers, fait que j'ai un peu zioté, là, mais à chaque fois que j'ai regardé les Jamie Benn, je l'ai trouvé impliqué. Il était là, il était là pour avoir des chances. Je pense que ça a juste pas réussi à date pour lui. Là. Il est pas invisible comme Rope Hintz. Il est présent, il s'implique. Ouais. Je pense que ça prend juste un petit déclic. Là. Ça prend rien, peut-être juste un but, puis ça va peut-être partir. Là. Fait que c'est sûr.
Ouais. Mais ouais, écoute, j'ai pas regardé le match les matchs des Stars en profondeur, fait que je peux pas dire là-dessus, mais effectivement, peut-être qu'on le voit dans le jeu, on le voit pas sur la feuille de pointage du moins. Puis un autre qu'on voit pas beaucoup, c'est Rupe Hintz en fait, mais lui aussi qui est trouvé qu'il avait quand même eu quelques bons flashs là, dans le match d'hier. Il y a une espèce de passe aussi à Johnston, je pense en prolongation, quelques instants avant que Johnston marque son but. Fait que peut-être que c'est de l'amélioration du côté de Hintz et de Ben. Pour ce qui est de Pavelski, ben, on va voir s'il va finir par se démarquer en série. Sinon, côté Golden Knights, est-ce que... en fait, côté Stars et Golden Knights, est-ce que tu penses que c'est dangereux, ça, ce qui est arrivé? Parce que les Stars avaient le gros contrôle du match. J'ai parlé de Logan Thompson qui a effectué d'excellents arrêts. Mais les Golden Knights, malgré qu'ils n'étaient pas du tout dans le match en début de première période, sont revenus, ont marqué deux buts, 2-2. Jack Eichel également qui a joué. Qu'est-ce que tu penses de cette remontée-là? C'est dangereux pour les Stars?
Oui, certainement. Mais tu sais, c'est ça l'avantage de dépasser le cap. C'est que tu peux avoir plus de joueurs. T'as vraiment plus de profondeur. Fait que ça t'aide à avoir des meilleurs joueurs puis de rester dans un match. plus sérieusement, tu sais, c'est des gars qui ont gagné l'année passée. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner une Coupe Stanley. Et qui travaille fort, puis il n'y avait pas, petit c'est McNabb qui a 2 points hier un peu leur MVP, puis il profite aussi, il envoie beaucoup de gens devant le filet, là, c'est connu partout, là, il y a un gardien qui ne voit pas les rondelles, c'est dur à arrêter. Sur le but de McNabb, il y avait encore du trafic, fait qu'il amène du trafic, puis c'est sûr que ça va leur permettre, c'est sûr que ça va payer à un moment donné si tu amènes du trafic, puis tu amènes des rondelles au filet. Là. Ils font très bien.
Ouais, mais McNabb, tout un tir. Jack Eichel, tout un tir aussi. Puis les deux, c'était à peu près à la même place dans le filet. Là. Leur tir, c'était assez impressionnant. C'était
marqueur, hein.
Mais, ouais. Puis, mais tu l'as dit. Là, comment?
Ben, vu que tu en as parlé, j'avais pas porté attention. Mais tu sais, c'est tout des buts du côté blocker. Hier, c'est deux buts du côté du bouclier. Fait que j'ai hâte de. Je pense que je vais retourner voir les buts pour voir si c'est une tendance là, que Jake Oettinger a de la misère du côté de son bouclier.
Ouais, ben c'est ça. Puis Oettinger a fait des bons arrêts quand même aussi hier, là, notamment en fin de troisième. Les Knights auraient pu marquer, puis ça, il n'y avait même pas de prolongation. Fait qu'Oettinger était là. Mais c'est vrai, peut-être qu'on a trouvé de quoi. Là, peut-être que les Golden Knights vont exploiter ce truc-là. Puis tu parlais à la blague tantôt du cap salarial, mais ça m'a fait rire, mais t'as raison. Là. C'est vraiment que t'ajoutes de la profondeur quand cet espace-là qui t'est donné parce que t'as un gars blessé, entre guillemets. C'est vraiment ce qui est arrivé. Puis, bon, honnêtement, c'est le règlement, le problème. Tant qu'à moi, les Golden Knights, ils jouent avec, puis ils ont techniquement le droit de la faire, même si ça fait chier beaucoup de gens. Mais ça explique là, pourquoi ils sont profonds, puis pourquoi ils étaient négligés au niveau classement. Mais quand tu rajoutes tous ces joueurs-là, ça change complètement la donne. Est-ce que tu vois les Stars revenir dans cette série?
Je l'espère. Mais quoi que ça ferait une excellente série là, Avalanche Golden Knights là, si les tendances se poursuivent. Mais je l'espère parce que j'avais quand même les Stars là, en finale de la Coupe Stanley. Fait que ça ferait du sens s'ils passaient parce que sinon ça va être dur de les avoir en finale de la Coupe s'ils ne sont pas capables. Mais tu sais, la série, c'est 2-1. Ils ont comme l'avantage dans le sens où il y a moins de matchs de jouer dans cette série-là. Ça avance moins vite. J'avais quasiment l'impression hier que c'était 3-0 Golden Knights, tellement que toutes les séries avaient 4 matchs de jouer. Il y a eu un deuxième match à Vegas. Ils sont capables de le remporter. Je pense que c'est pas un stress de remporter. Ben, c'est pas un must-win la prochaine game, mais c'est un must-compete. Ils ont besoin d'être là encore une fois dans le match. Puis je pense pas qu'ils sont finis.
Je pense pas non plus. C'est une des meilleures équipes dans l'Ouest. La meilleure équipe dans l'Ouest en saison régulière. Et moi aussi, j'ai prédit les Stars. Fait que pourquoi pas. Quoique, comme tu l'as dit, Golden Knights Avalanche serait très, très divertissant également. Mais là-dessus, Vince, c'est ce qui conclut là, ce résumé des matchs hockey 27 avril. 28 avril, il y a 4 matchs également présentement au moment où on se parle. On va revenir bien entendu là-dessus prochainement avec l'équipe d'Aux Premières Loges. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Merci Vince.
Merci à toi.
Yes, et puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode d'Aux Premières Loges. Salut.